Ce matin, nous allons voir une instruction sur la passion de notre Seigneur. On a voulu aujourd'hui, mercredi, axer plus les instructions sur la passion. Si tous les jours il n'y a pas de thème précis, aujourd'hui c'est un petit peu ce thème qui est développé. C'est pour ça que là on voit la passion de notre Seigneur. Ensuite, vous aurez une instruction sur le prêtre. Le prêtre qui continue par la messe en particulier à renouveler ce sacrifice du calvaire. Ensuite, nous verrons également l'instruction de cet après-midi, la Sainte Vierge qui est co-rédemptrice, donc la Sainte Vierge au pied de la croix qui, par ses souffrances, coopère au salut de nos âmes. Et ensuite, vous aurez une instruction sur la messe et la communion. Messe qui renouvelle, donc, comme on l'a vu, ce sacrifice du calvaire. Donc, cette journée est un petit peu centrée sur ce thème de la passion. Et c'est important pour nous parce que tout se trouve là, quoi. C'est ce que disait Saint Paul. Je ne connais que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, tout est dans la croix. Parce que finalement, notre Seigneur nous demande de l'aimer. Et c'est vrai que l'amour se prouve dans le sacrifice. Et nous avons toujours beaucoup de mal à accepter ce mystère de la souffrance. Alors, l'un des grands moyens d'accepter ce mystère de la souffrance, eh bien, c'est de regarder notre Seigneur. Et quand on voit ce qu'il a souffert pour nous, je pense qu'on a plus de force pour accepter la petite part de souffrance que chacun d'entre nous doit porter. Donc je pense qu'il faut essayer de rentrer dans cet esprit de la passion avec le désir de mieux connaître notre Seigneur pour ensuite dans notre vie mieux accepter donc la part de souffrance que le bon Dieu peut nous envoyer. Donc voir comment notre Seigneur a souffert pour voir comment nous-mêmes nous devons souffrir pour être fidèle. Parce que la souffrance reste un mystère, mais surtout ce qui est important pour nous de réaliser, c'est que le bon Dieu nous demande de souffrir, hélas, pour nous, mais pour lui aussi, parce que notre Seigneur avait dû souffrir. Mais donc il nous demande de souffrir, mais seulement ce n'est pas tout de souffrir. On peut souffrir en damné. Donc ce n'est pas le fait de souffrir qui en lui-même est méritoire, c'est l'intention qui l'anime. Et c'est ce qu'on va voir dans la passion de notre Seigneur. Notre Seigneur est mort sur la croix, il y avait deux croix à côté, il y avait celle du bon larron et du mauvais larron. Les deux ont souffert les mêmes souffrances, les deux sont morts. L'un est au ciel, l'autre est en enfer. Donc il faut comprendre dans ce mystère de la croix la manière dont nous devons souffrir pour rendre justement nos souffrances méritoires. Et voir les fruits merveilleux, je dirais, de la souffrance, c'est aussi un moyen pour nous de l'accepter. Si on voit à travers la souffrance uniquement le mal, eh bien, bien sûr qu'on le refuse, parce qu'on ne cherche pas le mal pour le mal. Mais si on voit à travers la souffrance, eh bien, un moyen d'expier nos péchés, un moyen de montrer au bon Dieu qu'on l'aime, en ce moment-là, on l'acceptera bien plus volontiers. Si vous êtes très malade et que vous devez subir une intervention, eh bien, vous accepterez les souffrances de l'intervention si vous savez que cette intervention va vous produire en vous la santé. Mais si vous n'êtes pas malade, vous n'allez pas subir les souffrances que les médecins pourraient vous imposer. Vous les souffrez que si jamais vous espérez un bien plus grand, c'est évident. Donc, pour essayer d'accepter la petite part de souffrance que le bon Dieu nous envoie, il est important d'en voir les fruits. Et là, il y a les fruits merveilleux de la passion qui doivent nous encourager, je pense, à accepter nos propres souffrances. Et puis aussi, dans cette passion, pour dire que tout se trouve dans la passion de notre Seigneur, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est le côté de réaliser en même temps aussi la malice du péché, La passion de notre Seigneur nous aide à mieux réaliser la malice du péché. C'est une des raisons pour lesquelles notre Seigneur a tant souffert. En soi, notre Seigneur étant Dieu, une goutte de son sang ou même un acte de sa volonté aurait suffi pour racheter le monde. Si notre Seigneur a voulu tant souffrir, c'est pour nous aider à mieux comprendre la malice du péché. Il y a un psaume qui dit « Delicta quis intelligit ». Le péché, qui le comprendra? Ça reste un mystère. Alors, pour mieux comprendre la malice du péché, il y a deux moyens, je pense, qui doivent nous aider à mieux comprendre la malice du péché. L'un des moyens de comprendre la malice du péché, c'est les conséquences du péché. Donc, c'est l'enfer éternel mérité par le péché. Et l'autre moyen, c'est de voir également les souffrances de notre Seigneur, puisque c'est par ces souffrances que notre Seigneur nous a rachetés. Et ces souffrances ont été nécessaires, presque, on peut dire, d'une certaine manière, dans le plan au moins de Dieu, pour expier le péché. Vous voyez que cette méditation de la Passion est très riche et très importante pour notre vie spirituelle. La Passion de notre Seigneur nous montre la miséricorde du bon Dieu. C'est parce que le bon Dieu est miséricordieux, c'est parce qu'il nous aime qu'il a tant souffert. Si notre Seigneur ne nous aimait pas, il n'aurait pas souffert cela pour nous. Donc la Passion nous montre l'amour de Dieu pour nous. Mais la Passion nous montre aussi la justice de Dieu. Un attribut qui est trop oublié aujourd'hui. Il fallait que justice se fasse. Donc le péché étant un désordre devait être réparé. Et pour être réparé, il fallait qu'il y ait une victime qui soit capable de réparer d'une façon juste la malice du péché. Et comme le péché renfermait une malice quasiment infinie, il fallait que ce soit une victime qui puisse avoir une valeur infinie aux yeux de Dieu pour l'expier. Vous voyez là encore deux attributs de Dieu qui sont manifestés à travers la Passion, la miséricorde et sa justice. Ensuite, la Passion va nous révéler le mystère de la grâce par toutes ces âmes qui, racheté par le sang de notre Seigneur, et le premier exemple que l'on voit, c'est le bon larron. Donc, mystère de la grâce, la Passion de notre Seigneur sauve les âmes, mais aussi le mystère d'iniquité, le mystère du refus de l'amour, notre Seigneur qui souffre en raison de du refus de Dieu. Et aujourd'hui, c'est pareil. Si notre Seigneur revenait sur la terre, d'autres hommes le remettraient à mort parce qu'on ne veut pas. La présence de Dieu gêne. Donc on veut le détruire. Donc vous voyez que cette méditation de la Passion est très très riche. Et donc il est important souvent pour nous de revenir à cela. Et même aussi dans les tentations, je pense qu'il est bon de revenir à cette Passion de notre Seigneur. Donc ici, l'optique pour nous, je pense, dans une retraite, doit être double. Mieux saisir la malice de nos propres péchés, en réalisant que par les fautes graves que nous avons peut-être pu commettre dans le passé, nous avons vraiment fait souffrir notre Seigneur. Donc mieux réaliser les conséquences de nos fautes. Et puis, deuxième optique, alors, en voyant le côté positif, je dirais, de la Passion, en voyant comment notre Seigneur, par sa Passion, sauve les âmes, voir comment, par nos propres souffrances, nous pouvons et réparer nos propres fautes et coopérer au salut des âmes de nos proches. Alors, tout d'abord, dans un premier point, je voudrais voir avec vous l'âme du sacrifice de notre Seigneur. Donc j'entends par l'âme du sacrifice la disposition intérieure de notre Seigneur face au mystère de la croix. Comment notre Seigneur a-t-il réagi face au mystère de la croix? Donc dans la Passion de notre Seigneur, les théologiens vont distinguer deux éléments. Premier élément, c'est un élément matériel, c'est les souffrances et la mort de notre Seigneur. Donc qu'est-ce que notre Seigneur a subi comme souffrance? C'est l'élément matériel du sacrifice. Et l'élément formel, c'est l'acceptation volontaire de ces souffrances. Et c'est bien sûr, comme je le dis, c'est ce qu'il y a de plus important. Le plus important dans une substance, c'est la forme. La matière, c'est le support, et la forme, c'est la forme qui va préciser cette matière. Donc l'élément formel du sacrifice de notre Seigneur, c'est cette acceptation volontaire de ses souffrances. Et alors donc il est important de voir que notre Seigneur n'a pas subi sa passion à contre-cœur, mais que c'est vraiment volontairement et librement qu'il s'est donné pour nous. Alors, là, dans cette âme du sacrifice de notre Seigneur, il faut savoir que l'aspect formel donc, du sacrifice, cette acceptation volontaire des souffrances, a précédé sa passion. Et dès le premier instant de sa conception, en venant dans le monde, notre Seigneur est venu pour s'offrir et pour souffrir pour nous. Donc, toute sa vie, en fait, notre Seigneur, toute la vie de notre Seigneur a été orientée vers son sacrifice. Donc ce n'est pas à l'âge de 33 ans, au moment où il a été arrêté, qu'il a commencé à offrir ses souffrances, les souffrances qu'il devait subir, donc la nuit du jeudi saint et le vendredi saint, mais c'est dès le premier instant de sa conception que notre Seigneur s'est offert comme prêtre et comme victime. Saint Paul l'affirme dans son épître aux Hébreux. Le Christ dit, en entrant dans le monde, vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Vous n'avez agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici que je viens pour faire, ô Dieu, votre volonté. Donc Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation. Ça signifie que Dieu le Père ne pouvait pas agréer les sacrifices de l'Ancien Testament, de l'agneau pascal et des différentes victimes qui étaient offertes. Le bon Dieu ne pouvait pas agréer ces sacrifices si notre Seigneur n'était pas mort pour nous. Donc les sacrifices de l'Ancien Testament n'ont tiré leur valeur que de la passion de notre Seigneur. Et c'est justement pour que les sacrifices de l'Ancien Testament puissent avoir une certaine valeur que notre Seigneur, donc, est mort pour nous. Donc, les sacrifices de l'Ancien Testament étaient des figures du sacrifice de notre Seigneur. Et aujourd'hui, la messe va reproduire ce même sacrifice de notre Seigneur. Donc, toute l'histoire de l'humanité converge vers ce sacrifice de notre Seigneur. Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation. Et tout simplement, comme je vous ai dit, parce que l'homme par son péché s'était séparé de Dieu, et le péché en quelque sorte renferme une malice infinie puisqu'il offense la majesté d'un Dieu infini, et pour réparer ce péché il fallait qu'il y ait une victime qui puisse poser des actes d'une valeur infinie, et donc seul Dieu pouvait le faire. Donc dès l'instant de sa conception, notre Seigneur vient dans le monde avec ses dispositions. Et ensuite, tout au long de sa vie, il ne va pas rétracter sa disposition première. Au contraire, on le verra très souvent dans sa vie publique, quand il dira « Mon heure n'est pas encore venue, mon heure, son heure, c'est l'heure de son sacrifice. Mon heure, c'est l'heure pour laquelle je suis venu sur la terre. » Donc toute la vie, notre Seigneur est orientée vers cette heure. Et le cardinal de Bérulle dit que justement, cette orientation de l'âme de notre Seigneur n'a pas été ponctuelle à certains moments où notre Seigneur pensait à sa passion, mais a été un état habituel, donc un état constant. Le Fils de Dieu, dit-il, dès le premier moment de sa vie en sa mère, se consacre à la vie, à la croix, à la mort qui s'en suivra par après. Et cette oblation et volonté première de Jésus est une action non pas passagère comme les nôtres, mais permanente, comme tenant de la nature et de l'état de l'éternité. C'est une action et volonté perpétuelle qui n'a jamais cessé, ni jour ni nuit, qui n'a jamais été divertie, ni interrompue par aucune autre action, qui a toujours été en actualité dans son cœur. Donc, toute sa vie, notre Seigneur a pensé à son sacrifice. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre. Et c'est pourquoi le premier acte de sa vie est un acte sacerdotal. Il s'offre comme prêtre, comme pont entre Dieu et nous, comme intermédiaire entre Dieu et nous, et il s'offre aussi comme victime de propitiation pour nos péchés. Mais ce don généreux de notre Seigneur est un don qui est le fruit d'un amour de volonté et non pas d'un amour de sensibilité. Ça, on l'avait vu un petit peu quand on a parlé de la personne et de la psychologie de notre Seigneur. Naturellement, l'homme n'aime pas la souffrance. L'homme éprouve naturellement un mouvement de répulsion face à la souffrance, dans sa sensibilité. Et pour montrer que notre Seigneur était vraiment homme, donc on l'avait vu, on voit qu'il a ressenti ce mouvement de recul, je dirais, face à la croix, dans sa sensibilité. Mais ensuite, il a été capable de dominer ce mouvement par sa volonté. Maintenant, mon être est en émoi, et que dire ? Préservez-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Ou encore, Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. S'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Notre Seigneur voyait parfaitement la somme de souffrance qu'il devrait endurer. Et dans sa sensibilité, il dit, non, Seigneur, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Mais il ajoute tout de suite, non pas comme je veux, mais comme vous voulez. Donc là, on voit comment est-ce que par sa volonté, justement, il se soumet à celle de son Père, par un acte de volonté. Et cela est aussi important parce que il ne faut pas nous étonner, je dirais, du bouillonnement parfois de la partie, je dirais, inférieure de notre être face aux souffrances que l'on peut éprouver. Tant que notre volonté reste soumise à Dieu, il n'y a pas de faute. En particulier dans les grandes épreuves, c'est sûr qu'on est, dans le noir, je dirais, le plus complet. Il n'y a que la partie supérieure de notre âme qui peut adhérer à ce mystère de la croix. Comment ? Ah, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. C'est enregistré, donc on passera la cassette. Tant que notre volonté reste soumise à Dieu, peut-être, c'était pas ça, non ? Il n'y a pas de faute. Par rapport à nos passions, on voit ça en psychologie, on dit que l'homme n'a pas de pouvoir despotique sur ses passions. Donc les passions, donc c'est le mouvement premier qui touche justement notre sensibilité. Eh bien, on ne peut pas dire, si on veut arrêter une passion brusquement, on ne le peut pas. On n'a pas de pouvoir despotique sur nos passions, mais simplement un pouvoir qu'on appelle diplomatique. Donc il faut essayer de gérer cette situation comme on peut. Et donc, il ne faut pas confondre, voyez, ce qui est de notre sensibilité, de ce qui est de notre volonté. Il faut bien faire toujours la part des choses. On dit qu'on n'est pas responsable, par exemple, des actes qu'on appelle primo-prime, donc les actes irréfléchis, qui, paf, c'est sorti comme ça. On n'a même pas réfléchi, donc là, il n'y a pas de responsabilité. Bon, après, quand on se connaît, on peut quand même prévenir, hein. Parfois, au moins, parfois. Alors bon, après avoir vu donc l'âme du sacrifice de notre Seigneur, voyons maintenant la liberté dans son sacrifice. Voir que c'est vraiment librement qu'il s'offre pour nous. Cela est important parce que aujourd'hui, c'est même, je dirais, quasiment blasphématoire, la thèse moderniste qu'on entend souvent consiste à laisser entendre que la passion de notre Seigneur, donc, serait vue un petit peu comme un échec. Notre Seigneur aurait soi-disant été impuissant à conjurer le mal. Il aurait été victime, en quelque sorte, d'une manœuvre à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Et bien, c'est absolument faux. C'est évident. Jusqu'au bout, notre Seigneur est resté maître de la situation. Et s'il s'est laissé prendre par ses ennemis, ça s'est fait quand il l'a voulu et comme il l'a voulu. Donc, c'est important de réaliser que c'est consciemment et librement que notre Seigneur a accepté toute la somme de souffrance qu'il a endurée pour nous. Preuve maintenant de cette liberté de notre Seigneur dans sa passion, tout d'abord le prophète Isaïe, qui a annoncé cette passion de notre Seigneur 700 ans avant, il a été offert parce que lui-même l'a voulu. Isaïe chapitre 53, verset 7. Et ensuite notre Seigneur le dit lui-même. Si le Père m'aime, C'est parce que je donne ma vie pour la recouvrer ensuite. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Je donne ma vie. Donc il l'offre librement. Saint Jean chapitre 10, versets 17 et 18. Notre Seigneur était bien capable d'échapper à ses ennemis, et la preuve, c'est qu'il l'a fait à plusieurs reprises, parce que son heure n'était pas encore venue. C'est ce que dit Saint Jean à plusieurs reprises vers la fin de la vie de notre Seigneur. Par exemple, pendant la fête des tabernacles, la fête des tentes, ils cherchèrent à l'appréhender, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Donc ils cherchèrent à l'appréhender. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi ? Parce que son heure n'était pas encore venue. Saint Jean, chapitre 7, verset 30. Et ça revient très souvent. Je vous donne quelques références encore. Un peu plus tard, donc, c'est une controverse entre les Juifs et notre Seigneur qui déclare qu'il est la lumière du monde et qu'il est le Fils de Dieu. Personne ne l'appréhenda parce que son heure n'était pas encore venue. Saint Jean, chapitre 8, verset 20. Ensuite, et à chaque fois aussi, c'est intéressant à voir, chaque fois que les Juifs veulent mettre à mort le Seigneur, c'est parce qu'il dit qu'il est Dieu et qu'il affirme sa divinité. Donc c'est bien parce qu'on refuse, les Juifs refusent la divinité de notre Seigneur. Alors dire, comme on en voit dans le Nouveau Catéchisme aujourd'hui, que les catholiques et les Juifs, il n'y a pas grande différence parce que les uns et les autres attendent le Christ. La seule différence, c'est que les uns, c'est à la venue du Christ et puis les autres, c'est son retour. C'est pas... Ah oui, ils disent que les buts sont analogues. Voilà, c'est le terme. Analogues. Ben non, les buts ne sont pas analogues entre les Juifs et les catholiques. Les uns reconnaissent qu'il est Dieu et les autres, malheureusement, ne le reconnaissent pas. Donc là aussi, c'est important pour nous de méditer sur cette divinité de notre Seigneur. Parce que si on comprend que notre Seigneur est Dieu, eh bien, ceux qui le refusent, malheureusement, se trompent. Donc là, c'était un peu plus tard, donc, notre Seigneur dit qu'il existait avant Abraham, avant qu'Abraham fût « Je suis ». Ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Et ici, le père Liberman, qui commente ce passage, donc ça c'était Saint Jean chapitre 8, verset 59, donc le père Liberman qui commente ce passage dit que notre Seigneur s'est rendu invisible pour ne pas être pris. Parce que, en réalité, humainement, notre Seigneur ne pouvait pas en réchapper. Parce qu'il était dans le temple était rempli de personnes, notre Seigneur était là au milieu, il était coincé. Mais en réalité, il s'est rendu invisible pour pouvoir sortir. Parce que notre Seigneur est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Lors de la fête de la dédicace du temple, notre Seigneur affirme une nouvelle fois qu'il est Dieu en disant « Mon Père et moi, nous sommes un ». Saint Jean chapitre 10, verset 30. Et à ce moment-là, de nouveau, les Juifs apportèrent des pierres pour le lapider. Jésus leur répliqua « Je vous ai fait quantité de bonnes œuvres qui sont du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème, parce que n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » Donc c'est bien parce que notre Seigneur a affirmé sa divinité qu'il a été mis à mort. Saint Jean chapitre 10, versets 31 et 33. Et encore un peu plus loin, vous voyez, mais c'est tous les branches de Saint Jean, on le retrouve. Là-dessus, ils cherchaient encore à l'appréhender, mais il s'échappa de leurs mains. Saint Jean chapitre 10, verset 39. Donc c'est bien consciemment et librement que notre Seigneur a offert sa vie pour nous. On l'a vu bien par cet acte intérieur de notre Seigneur au moment de sa conception. On l'a vu en particulier maintenant, donc lorsqu'on a voulu arrêter notre Seigneur à chaque fois a su déjouer le plan de ses ennemis, parce que en tant que Dieu, il voyait aussi dans les âmes, donc chaque fois qu'il pouvait discerner les desseins de ses ennemis. Et on verra encore, même au moment de son arrestation, il sait très bien ce qui va lui arriver. La preuve, c'est qu'il va prévenir les apôtres à trois reprises, donc il y a les trois annonces de la passion où il décrit tout ce qu'il va subir. Ensuite, juste avant sa passion, il va annoncer la trahison de Judas, donc ça c'est même le jeudi saint, il va annoncer le reniement de Saint-Pierre et l'abandon des disciples. Et pour montrer ensuite qu'il reste maître de la situation, au moment même où il va se faire arrêter, il va dire « Qui cherchez-vous ? » Alors, ils disent « Jésus de Nazareth ». Notre Seigneur va dire « C'est moi ». C'est le seul mot « C'est moi ». Eh bien, tous ses ennemis se retrouvent plaqués à terre. On imagine cette dignité, d'ailleurs c'est beau, de notre Seigneur. Et en ce moment-là, ils auraient dû réaliser que notre Seigneur était Dieu. C'est ce que dit Saint Jean, vous voyez, chapitre 18, versets 4 à 6. Quand il leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Donc juste avant donc, son arrestation, enfin au moment de l'arrestation, notre Seigneur a voulu montrer une nouvelle fois, clairement, à la fois sa divinité, et montrer aussi que c'était bien librement qu'il se donnait. Parce que notre Seigneur, en ce moment-là, aurait pu partir et puis le laisser par terre. Mais ensuite, il se laisse prendre pour accomplir la volonté de son Père. Et dernière preuve encore, qui apparaît au moment de la Passion, c'est que Saint-Pierre, justement, lui, va couper l'oreille donc, du serviteur du grand prêtre. Et notre Seigneur va lui dire en ce moment-là, « Remets ton épée au fourreau. Ne pourrais-je pas invoquer mon Père qui me fournirait 12 légions d'anges et plus ?» Saint Matthieu, chapitre 26, versets 53 à 54. Donc notre Seigneur montre que, par là que c'est consciemment et librement qu'il donne sa vie pour nous. À la fois par amour de son Père et aussi par amour de nous. Donc essayons d'avoir cette même grandeur d'âme pour accepter les petites souffrances que le bon Dieu nous envoie. Alors quelles sont les souffrances maintenant que notre Seigneur va endurer dans sa passion ? Là, on a déjà un petit peu parlé quand on a parlé de notre Seigneur. Première passion, donc on avait vu, c'était la crainte face à la mort. Maintenant, mon être est en émoi. Saint Jean, chapitre 12, verset 27. Ici, il faut simplement se rappeler que cette passion de la crainte que notre Seigneur a éprouvée, il a éprouvé, on peut dire, toute sa vie, parce que dès le premier instant de sa conception, à la différence des autres enfants, notre Seigneur avait pleine possession de son intelligence et de sa volonté, au moins divine, puisque notre Seigneur est Dieu. Et par conséquent, il connaissait parfaitement toutes les souffrances qu'il devrait endurer. Et il ne pouvait pas ne pas penser régulièrement à ces souffrances. Vous imaginez, vous, qu'on vous annonce que dans quelques années, vous allez mourir d'une mort atroce, et que vous serez... Jusque dans les détails, toutes les souffrances que vous devrez endurer, eh bien régulièrement vous y penseriez, enfin, fréquemment vous y penseriez, c'est sûr. Eh bien notre Seigneur, c'était le cas. Dès l'instant de sa conception, il connaissait parfaitement toutes les souffrances physiques, morales, spirituelles qu'il endurerait. Ensuite, après la crainte, la tristesse. Mon âme est triste à en mourir. Donc ça aussi on l'avait vu. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 38. Donc là, au Jardin des Oliviers, notre Seigneur voit en esprit, en quelque sorte, toute la malice de tous les péchés du monde entier. Et il expie, donc, pour ses fautes. Et sa souffrance a été d'autant plus grande que son amour était plus grand. Plus on aime une personne... Et plus on souffre de la voir s'écarter du droit chemin. Si on apprend qu'une personne s'est éloignée de Dieu, bon, si c'est une personne qu'on ne connaît pas, on souffrira certainement. Mais ce n'est pas la même chose que si ça se passe avec quelqu'un de notre famille. Donc plus on aime une personne, et plus on souffre de la voir s'écarter du droit chemin. Et notre Seigneur nous aime d'un amour qui nous dépasse. Donc ça montre les souffrances qu'il a pu endurer. Et ensuite, ses souffrances ont encore été augmentées, accrues par sa sensibilité. Le Seigneur avait une sensibilité parfaite. plus la sensibilité est affinée, plus, plus une âme qui est plus sensible souffre plus, une âme insensible. Et Saint Jean Damascène affirme que notre Seigneur n'a pas voulu alléger ses souffrances par des considérations spirituelles, par exemple en pensant à la justice de Dieu qui serait satisfaite par sa croix, ou en pensant encore à toutes les âmes qui seraient sauvées par ses souffrances. Alors c'est vrai que dans la partie supérieure de son âme, il contemplait Dieu, ça reste encore un mystère, il avait la vision béatifique, mais toute la partie inférieure était livrée à la souffrance. Alors là, on ne développe pas davantage, mais c'est vrai que, d'après les révélations du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie, c'est là que notre Seigneur a souffert le plus de toute sa passion. Et ses souffrances ont été si fortes qu'elles ont provoqué à trois reprises une sueur de sang. Le Seigneur a transpiré du sang en raison de cette angoisse, de cette souffrance incalculable qu'il a endurée donc le jeudi saint au soir. Donc après ces passions dont on vient de voir, la crainte et la tristesse, maintenant les souffrances physiques. Alors ici je reprends un peu ce que dit saint Thomas d'Aquin. La douleur de notre Seigneur a été extrême quant à l'intensité. Il a vraiment pris sur lui toutes nos langueurs et porté le poids de toutes nos douleurs. Isaïe chapitre 53 verset 4. Et encore dans le prophète Isaïe. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait rien d'intact en lui. Ce n'est que blessure, que contusion, qu'une plaie enflammée qui n'a point été bandée et qu'on n'a point adouci avec l'huile. Isaïe chapitre 1er verset 6. Donc ces souffrances physiques, ben, nous les connaissons bien puisqu'on les médite dans le chapelet. En particulier la flagellation, quand on voit le Saint-Suaire en... On voit toutes les marques de son corps sur le Saint-Suaire, tous les coups que notre Seigneur a reçus dans cette flagellation. Ensuite, sa tête qui a été meurtrie par la fameuse couronne d'épines, qui en fait était plutôt un casque d'épines qu'une couronne. Et puis ses mains et ses pieds cloués à la croix. Et là aussi, le docteur Barbet, donc dans la Passion du Seigneur Jésus-Christ selon le chirurgien, il nous montre que ces souffrances sont vraiment atroces, parce que, en particulier dans les poignets, puisqu'elles sectionnent en partie le nerf médian qui provoque des douleurs intolérables sur tout le corps. Et en particulier, chaque fois que notre Seigneur se redressait pour parler sur la croix, il ravivait encore ces souffrances. Parce que naturellement le corps a tendance à s'affaisser, c'est comme ça d'ailleurs qu'il mourait par asphyxie, c'est pour ça qu'on coupait les jambes des suppliciés, parce qu'il ne pouvait plus se redresser et donc il mourait. Donc il fallait qu'ils reprennent appui sur leurs pieds pour pouvoir et sur les mains pour pouvoir respirer. Et donc chaque fois que le Seigneur voulait parler, il fallait qu'il se redresse. Et ça provoquait en lui une souffrance intolérable. Donc souffrance terrible donc quant à l'intensité et ensuite encore quant à l'extension. Parce que souvent quand on pense justement aux souffrances de notre Seigneur dans sa passion, on s'arrête souvent d'ailleurs à cet aspect de souffrance physique et on oublie peut-être un peu aussi les souffrances morales qu'il a pu endurer. Notre Seigneur a souffert de la part de tous les hommes d'une certaine manière. Toutes les catégories d'hommes, on peut dire. Il a souffert de la part des gentils, les Pilate et les Romains, mais aussi des Juifs. De la part des hommes, mais aussi des femmes, par exemple les servantes qui ont fait trembler Pierre quand il renia son maître. De la part des princes, Pilate, Hérode, Caïphe, mais aussi de la part de leurs serviteurs et de la populace qui cria « Crucifiez-le ». Et même de la part de ses amis. Et là aussi, ça fait partie des souffrances sans doute les plus douloureuses. de notre Seigneur. Être trahi par ses amis, c'est ce qu'il y a de plus terrible pour nous. Trahison de Judas, reniement de Pierre, abandon de son peuple. Ensuite, il a souffert encore dans tous les biens que peut subir un homme, dans sa réputation, par les blasphèmes proférés contre lui. Dans son honneur et sa gloire, par les dérisions qu'il a subies, la robe de fou par exemple qu'on lui a mis chez Hérode, ou la couronne d'épines par les soldats romains. Et encore dans ses biens, par le dépouillement dont il a été l'objet, puisque on lui a même arraché ses vêtements. Ensuite, autre souffrance de notre Seigneur dans sa passion, souffrance morale encore, la honte. Là encore, je reprends ce que dit saint Thomas. La mort de notre Seigneur fut honteuse à cause du lieu où il souffrit. Le lieu où il souffrit, parce qu'il est mort au lieu qui s'appelait Calvaire, qui signifie crâne. Et c'était l'endroit où on tranchait la tête des criminels, d'où le nom de calvaire, le nom de crâne que l'on donnait à ce lieu. Donc il est mort au lieu où on mettait à mort les criminels. Encore mort honteuse en raison du genre de supplice que notre Seigneur a subi. En effet, dans l'Ancien Testament, il était écrit: celui qui est suspendu au bois est maudit de Dieu. Celui qui est suspendu au bois est maudit de Dieu. Deutéronome, chapitre 21, verset 23. Alors pour comprendre cette phrase, il faut savoir distinguer, c'est ce qu'on fait toujours en théologie, il y a deux types de malédictions possibles. Il y a la malédiction de la faute et la malédiction qui est due à la peine. Et c'est bien sûr uniquement en ce second sens que notre Seigneur a enduré cette malédiction, puisque notre Seigneur n'a jamais péché. Donc il a supporté, en quelque sorte, il a porté sur lui la peine due par nos péchés pour nous délivrer du péché. C'est ce que saint Paul, je pense, veut nous dire lorsqu'il dit dans son épître aux Galates: le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en se faisant maudit pour nous. En se faisant maudit pour nous. Galates chapitre 3, verset 13. Et mort honteuse encore, en raison des deux malfaiteurs, en compagnie de qui il expira. De même, dit saint Jérôme, qu'il fut suspendu à la croix comme s'il avait été criminel et maudit. De même, il fut crucifié entre deux criminels. Qu'il fut suspendu à la croix comme s'il avait été maudit, de même aussi, il fut crucifié entre deux criminels comme s'il eût été lui-même un criminel. Et saint Augustin, qui rappelle cette situation, nous dit que c'est un petit peu une image de ce qui se passera à la fin des temps, et qu'en réalité, la croix est un tribunal. Le juge est placé au milieu, le juge ce sera notre Seigneur, les coupables sont à ses côtés. L'un croit et est absous, l'autre l'insulte et est condamné. C'est le signe de ce qui arrivera à la fin des temps, où les uns à sa droite seront justes et où les autres à sa gauche seront malheureusement donc condamnés. Donc le bon larron symbolise les justes et le mauvais larron les damnés. Et là aussi le bon Dieu l'a voulu, vous voyez, pour nous éviter de tomber toujours dans les deux écueils de la vie spirituelle. L'écueil de la présomption. Pour éviter l'écueil de la présomption, il y a le mauvais larron. Et pour éviter ensuite l'écueil du découragement, il y a le bon larron. Ce sont toujours les deux écueils à éviter dans la vie spirituelle. La présomption, se croire qu'on est sauvé déjà. Et ensuite le découragement, croire que n'importe comment on est foutu, qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir. Et puis enfin, la dernière souffrance de notre Seigneur, dont on a déjà un petit peu parlé, l'abandon du Père, qui reste une souffrance encore mystérieuse. Souffrance manifestée à travers la parole de notre Seigneur sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Saint Matthieu, chapitre 27, verset 46. Alors, comment expliquer un petit peu cette situation, notre Seigneur, sur la croix ? Eh bien, on peut dire que, d'une certaine manière, notre Seigneur a été identifié au péché, au point que saint Paul dit que notre Seigneur s'est fait péché pour nous. On ne dit pas « s'est fait pécheur », notre Seigneur ne s'est pas fait pécheur. Notre Seigneur s'est fait péché pour nous. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pour nous péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc Dieu le Père, voyant en notre Seigneur la victime de nos péchés, exerce sur lui sa justice, et notre Seigneur éprouve l'action de cette justice vengeresse sous la forme de l'abandon de son Père. Au moins, encore une fois, dans la partie inférieure de son être, puisque le sommet de son âme restait uni à Dieu, puisqu'il contemplait Dieu, même en ce moment-là. Et si notre Seigneur donc a voulu connaître, voyez, tous ces genres de souffrances, c'est pour nous aider nous-mêmes à accepter les souffrances que nous pouvons endurer. Toutes les souffrances que nous endurons, notre Seigneur les a supportées d'une manière ou d'une autre. Et il a voulu sanctifier, je dirais, tous les genres de souffrances par ses souffrances, afin que chacune de nos souffrances puisse avoir aussi valeur de salut, valeur de rédemption. Alors maintenant, un mot sur les vertus de notre Seigneur. Au cours de sa passion, qu'est-ce qui a permis à notre Seigneur d'être capable d'endurer toutes ses souffrances? Qu'est-ce qui a été le moteur de son intérieur qui lui a permis d'accepter cette somme de souffrances? Eh bien d'abord, l'amour de son Père. Et là encore, on peut reprendre l'évangile de saint Jean pour voir très souvent comment notre Seigneur parle de son Père et montre que son seul souci, c'est accomplir la volonté de son Père. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que toujours je fais ce qui lui plaît. Je fais toujours ce qui lui plaît. Saint Jean, chapitre 8, verset 29. Ou encore, j'honore mon Père. Saint Jean chapitre 8, verset 49. Je donne ma vie selon le commandement que j'ai reçu de mon Père. Saint Jean chapitre 10, verset 18. Et cela nous montre aussi, vous voyez, c'est que nous-mêmes, il faut essayer d'agir toujours en fonction de Dieu. Qu'est-ce que le bon Dieu veut de moi? C'est là qu'il faut trouver son bonheur, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ensuite, après l'amour de Dieu son Père, l'amour des âmes. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Donc notre Seigneur, étant le bon pasteur, donne sa vie pour nous. Saint Jean, chapitre 10, verset 11. Cet amour des âmes se verra dans le tout au long de sa passion. Là aussi, on peut développer, on en a déjà un peu parlé. Il va changer, par exemple, le cœur du Cyrénéen. Au début, le Cyrénéen, c'est peut-être à contre-cœur qu'il a accepté de porter la croix de notre Seigneur. Mais ensuite, il va changer son cœur au point que deux de ses fils auront la grâce du martyr. Ils seront baptisés et auront la grâce du martyr, Alexandre et Rufus. Ensuite, on voit la délicatesse qu'il va avoir aussi d'imprimer les traits de son visage sur le voile de Sainte Véronique. Sainte Véronique qui fait ce qu'elle peut pour essayer de le soulager. Et notre Seigneur récompense cette générosité. Ensuite, il nous donne la Sainte Vierge pour mère, donc au calvaire. Donc tout cela montre l'amour que notre Seigneur nous porte dans les circonstances les plus tragiques. Alors que nous-mêmes, souvent, autant quand on est en forme, bon, si on est généreux, on est capable de se donner, autant quand on souffre, on a tendance à se replier sur nous-mêmes. Bien, notre Seigneur montre dans les souffrances les plus atroces Il marque l'oubli de lui-même. Il continue à penser aux autres. Ensuite, autre vertu, l'humilité, qui est jointe à la magnanimité. Donc ces deux vertus en apparence opposées, qui en réalité ne sont pas opposées, elles sont complémentaires. L'humilité de notre Seigneur, qui apparaît dans l'incarnation, puisque que le bon Dieu se fasse homme, c'est un petit peu comme si un homme se faisait ver de terre, pour une comparaison. Donc ça montre cette humilité de notre Seigneur qui s'est fait néant pour nous. C'est ce que dit Saint Paul. Le Christ Jésus s'est fait néant pour nous. Ex inanivit semet ipsum. Philippiens chapitre 2, verset 6. Lui qui est l'être même, l'être par excellence, il s'est fait néant. Ensuite, il reconnaît humilité manifestée dans la dépendance que notre Seigneur reconnaît avoir vis-à-vis de son Père. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Saint Jean chapitre 7, verset 16. Il renvoie la gloire à son Père. Humilité manifestée encore par son silence dans la Passion. Comme une brebis qu'on mène à la boucherie, comme un agneau devant celui qui le tond, il a gardé le silence et n'a pas ouvert la bouche. Isaïe chapitre 53, verset 7. Et ce n'est pas un silence, je dirais, orgueilleux, parce que c'est vrai que ça pourrait être un silence parfois de mépris. C'est plutôt un silence qui montre aussi sa dignité. Quand il voit que ses paroles ne serviront à rien, il ne cherche pas à se justifier. Il ne cherche pas à éclairer l'âme, puisqu'elle est incapable de comprendre. Donc il se tait. Et c'est ce qui va d'ailleurs inquiéter Pilate. Tu ne réponds rien aux accusations qu'on porte contre toi. Pilate est inquiété par ce silence. Devant Hérode, qui est mal disposé, par exemple, le Seigneur ne dit pas un mot. Pas un seul mot. Hérode lui posa pas mal de questions, mais il ne répondit rien. Saint Luc chapitre 23, verset 9. Et alors la magnanimité maintenant va apparaître, toujours dans cette disposition d'âme, de notre Seigneur, dans sa Passion. Par exemple, le courage qu'il a pour affronter ses ennemis juste avant son arrestation. « Levez-vous, allons, maintenant est arrivé celui qui va me livrer. » Alors qu'il était accablé au moment de l'agonie, pendant 3 heures d'agonie, eh bien il se relève avec... générosité pour aller lui-même au devant de ses bourreaux. Levez-vous, allons, maintenant est arrivé celui qui va me livrer. Saint Matthieu chapitre 26 verset 46. Et comme je vous ai dit, donc cette magnanimité se verra aussi par l'oubli de lui-même. Par exemple, il va protéger ses apôtres au moment de l'arrestation. Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Donc il pense encore à, alors qu'ils vont le trahir, ils vont l'abandonner, il les protège. Saint Jean chapitre 18 verset 8. Encore la délicatesse de notre Seigneur qui apparaît en ce moment-là. Il va guérir, preuve encore qu'il est Dieu, le serviteur du grand prêtre dont Pierre vient de couper l'oreille. Il aurait pu laisser l'oreille par terre, mais non. Notre Seigneur prend l'oreille, paf, il la remet. Jésus, lui touchant l'oreille, le guérit. C'est beau de voir. Il voulait à la fois montrer toujours qu'il était Dieu, montrer sa puissance, et puis en même temps aussi montrer sa bonté. Saint Luc, chapitre 22, verset 51. Et puis donc toute l'attitude qu'on a vue au cours de sa Passion, qui montre cette grandeur d'âme. Cela se verra aussi à travers les réponses qu'il fait à ses juges. Dès que la vérité est en jeu, là, par contre, notre Seigneur parle. La question du grand prêtre. Je t'adjure de par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, tu l'as dit. Je vous dis, dans l'avenir, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance de Dieu et venir sur les nuées du ciel. Donc, c'est vraiment l'honneur de son Père, ou l'honneur de Dieu qui est en jeu. Là, il parle. Et cette dignité était telle au moment de la passion qu'elle va convertir, par exemple, le centurion. Le centurion, en regardant notre Seigneur, il se dit, c'est pas possible. C'est pas un homme comme les autres. Et à la fin, il va dire, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Saint Matthieu, chapitre 27, verset 54. Et puis, alors, enfin, dernière vertu qu'on peut voir dans la passion de notre Seigneur, c'est la force dans la faiblesse. Donc, notre Seigneur, malgré toutes ses souffrances, il ne se révolte pas, il ne cherche pas la fuite. On ne voit aucune parole de haine vis-à-vis de ses persécuteurs. Et cette force apparaît encore à travers... C'est vrai que la faiblesse apparaît à travers ses chutes, mais la force apparaît à travers ce relèvement. Malgré son état d'épuisement, après tout le sang qu'il a pu perdre, dans l'agonie, dans la flagellation, à travers le couronnement d'épines, notre Seigneur est épuisé, mais il se relève à chaque après chaque chute. Hein. Force encore qui apparaît donc dans les paroles qu'il prononce sur la croix, comme je vous ai dit, alors que chacune de ces paroles entraînait pour lui une souffrance intolérable. Et puis enfin, alors force qui va apparaître dans la paix qu'il va conserver au milieu des tourments, même s'il est vrai qu'il y a cette fameuse parole, comme on l'a vu, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Il faut savoir, comme je vous l'ai déjà dit aussi, que c'est la parole d'un psaume qui termine par la confiance. Et notre Seigneur manifestera bien cette paix lorsqu'il dira « Père, je remets mon âme entre vos mains », montrant qu'il était bien maître de la situation et qu'il a bien tout accompli, puisqu'il dit « tout est accompli ». Et puis alors enfin, alors on va terminer par là, c'est les effets de la passion. Et là, c'est très important aussi pour nous, comme je vous ai dit, c'est les effets de la passion nous encouragent à accepter nos propres souffrances. L'homme ne peut pas vouloir le mal pour lui-même, le bon Dieu ne veut pas qu'on désire le mal pour lui-même. Et si donc nous devons accepter parfois certaines souffrances, il faut essayer de regarder le profit que nous pouvons tirer de ce mal. Le bon Dieu est capable de tirer le bien du mal. Les effets de la passion étaient déjà annoncés par le prophète Isaïe. Il a été brisé par nos crimes. Le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui et nous avons été guéris par ses meurtrissures. Nous avons été guéris par ses meurtrissures. Donc l'un des effets, c'est notre guérison. Nous pouvons aujourd'hui retrouver l'amitié de Dieu grâce aux souffrances de notre Seigneur. Par les souffrances de notre Seigneur. Isaïe chapitre 53, verset 5. S'il livre son âme pour le péché, il verra une longue postérité. Chapitre 53, verset 10. Le prophète Isaïe est le prophète qui a annoncé presque le plus dans le détail toutes ces souffrances de notre Seigneur. Et c'est au point qu'on a appelé ce chapitre 53 d'Isaïe la passion selon Isaïe. Et l'un des aspects qui apparaît dans cette prophétie, c'est le lien qu'il y a justement entre les souffrances de notre Seigneur et puis ensuite les fruits merveilleux qui sont liés à ses souffrances. Parce que son âme aura souffert, il verra et sera rassasié. Par sa science, mon juste serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il portera en lui leurs iniquités. Donc il justifiera beaucoup d'hommes. Enfin bon, c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent. Je lui donnerai une longue multitude pour partage, et il distribuera les dépouilles des forts, parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été mis au nombre des scélérats, qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a prié pour les pécheurs. Toujours ce même chapitre, verset 22 et suivant. Le roi David également dans un psaume, le psaume 21. Le fameux psaume donc qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» À la fin du psaume, on voit encore les fruits des souffrances de notre Seigneur. Toutes les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Donc, du monde entier, des âmes se convertiront et se tourneront vers Dieu. Il annonce là la conversion des païens. Ma postérité, il s'agit de celle du Christ, servira le Seigneur. On parlera du Seigneur à la génération à venir. On fera connaître sa justice au peuple qui va naître. Ça, c'est les versets 28 et tout à l'heure, et maintenant versets 31 et 32. Donc ce psaume qui décrit les souffrances de notre Seigneur montre à la fin les fruits de ces souffrances. Et notre Seigneur également montrera le fruit de ses souffrances dans le dernier discours, la dernière déclaration publique qu'il va prononcer avant son arrestation. Donc c'est un discours important puisque c'est le dernier qui est public. Et là, notre Seigneur annonce sa mort et annonce les fruits de sa mort. C'est donc le chapitre 12 de Saint Jean. Jésus prit la parole et dit « Voici venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé jeté en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc notre Seigneur prend une analogie avec la nature pour que les graines portent du fruit, pour qu'elles deviennent, se transforment en arbres, il faut que la graine meure. Et notre Seigneur, prenant cet exemple dans la nature, dit que de même, il faut que lui-même meure pour pouvoir sauver, porter beaucoup de fruits pour pouvoir sauver les âmes. Et deuxième passage dans ce même chapitre, c'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Le prince de ce monde, c'est le démon. Et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Donc quand je serai sur la croix, entre ciel et terre, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. J'attirerai toutes les âmes à moi. Donc ayons bien confiance dans le fruit de la souffrance. Et puis enfin, alors après sa résurrection, notre Seigneur va dire lui-même aux disciples d'Emmaüs, « Ne fallait-il pas que le Messie connût ses souffrances pour entrer dans sa gloire ?» Saint Luc, chapitre 24, verset 26. Et là, il va justement prendre les passages de l'Ancien Testament que nous venons de revoir, les uns après les autres, et il va détailler ces passages pour montrer que toute sa passion avait été annoncée dans l'Ancien Testament. Et puis alors enfin, les fruits de la passion selon les apôtres. Premier fruit selon les apôtres, la rémission de nos péchés. C'est ce qu'il écrit dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1er, verset 5. Jésus-Christ nous a purifiés de nos péchés par son sang. Ensuite, la rémission de la peine due au péché, si nous savons unir nos souffrances à celles de notre Seigneur. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, mais à la condition que nous souffrions avec lui pour être glorifiés avec lui. Romains chapitre 8, verset 17. La délivrance du pouvoir des démons, c'est le passage qu'on vient d'entendre. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Saint Jean, chapitre 12, verset 31. Ensuite, la réconciliation avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Romains, chapitre 5, verset 10. Et puis enfin, l'ouverture du ciel. Nous avons confiance, mes frères, d'entrer dans le Saint des Saints, le Saint des Saints c'est le ciel, par le sang de Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 19. Donc voilà, alors je pense que cette méditation est pour nous très importante. Pour notre vie spirituelle, il faudra souvent revenir à cela, essayer de rentrer dans le cœur de notre Seigneur pour réaliser ce qu'il a souffert pour nous. Il y a une parole que je ne retrouve plus ici, de l'Ancien Testament, où notre Seigneur dit, où le bon Dieu dit, que le juste périt et personne n'y songe dans son cœur. Je l'ai vu tout à l'heure, mais... Voilà, c'est Isaïe chapitre 57, verset 1. Le juste périt et personne n'y songe dans son cœur. Donc, ce qui fait de la peine à notre Seigneur, c'est de voir que toutes ces souffrances qu'il a endurées pour nous, s'il les a endurées, c'est pour qu'on réalise mieux qui il est et ce qu'il attend de nous. Et donc, il est important de méditer, de réfléchir un petit peu à ces souffrances. Et notre Seigneur est triste de voir que beaucoup d'âmes, sont beaucoup trop superficielles et n'ont pas le... sont peut-être trop distraites aussi et donc ne savent pas réfléchir à toutes ces souffrances qu'il endurait pour nous. Donc essayons d'en profiter de cette retraite pour regarder, je dirais, d'une façon paisible et de compatir aussi en même temps à ces souffrances et surtout d'en tirer profit pour notre vie et de réaliser donc le lien toujours entre ces souffrances et nos propres péchés. Il ne faut pas que ce soit simplement notre sensibilité qui soit affectée, je dirais, par ces souffrances que notre Seigneur a pu endurer, mais il faut que ça pénètre plus profondément dans notre âme afin de, eh bien, que ça ait des incidences ensuite sur notre vie chrétienne. Voilà.